Fait que dire que les filles portent plainte pour des oui, pour des non, là, bref. On arrive à maintenant, en jour d'aujourd'hui, la Cour suprême, en 2011, a pris une autre position extrêmement claire et je trouve personnellement courageuse par rapport à la question du consentement, et je vais essayer de conclure là-dessus. Bon, il y a eu un one-shot, le consentement tacite, on a dit il y a non au consentement tacite, mais bon, ça n'a pas nécessairement amélioré beaucoup les choses, ça a continué d'être un crime qui n'est pas puni vraiment dans une proportion équitable par rapport au nombre d'offenses commises. Et en 2011, il y a un cas super intéressant qui est arrivé sur la table de la Cour suprême et qui a vraiment permis à la Cour suprême de faire le point d'une façon très claire sur ce qui est vraiment la question du consentement. Dans une situation très complexe, c'est un couple marié avec un enfant qui ont des pratiques sadomaso. Et ils sont en instance de divorce. Au moment où madame porte plainte pour un événement qui est arrivé avant le dépôt des procédures en divorce, où ils se seraient livrés à leur pratique sadomasochiste, au cours de laquelle monsieur aurait étranglé madame dans ce qu'on appelle un étranglement érotique. Madame a perdu conscience pendant 3 minutes, et lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait les mains attachées dans le dos, et monsieur était en train de la sodomiser avec un godimiché. J'aime ça, le droit criminel, ça... C'est un couple dans lequel la pratique du sadomasochiste était admise. Et en preuve, l'avocat de monsieur va vraiment travailler très fort pour faire dire à madame qu'elle était d'accord pour l'étranglement, elle avait accepté d'être étranglée. Elle savait que son mari allait peut-être lui faire des choses pendant qu'elle serait inconsciente. Ils en avaient déjà discuté. Il avait déjà manifesté son désir de profiter de son inconscience un peu. Et elle lui avait dit qu'elle était ouverte aux expériences. Donc, l'avocat de monsieur va plaider qu'il ne peut pas y avoir d'agression sexuelle parce que madame avait consenti à toute l'affaire. Elle avait consenti à être étranglée, puis elle avait consenti à tout ce qui suivait. Et là, la question va se poser, puis l'avocat de la couronne, lui, va plaider au contraire, mais à quoi elle a consenti? Elle était inconsciente, là. Il est où son consentement à partir du moment où elle perd la carte, là? Et ça va être la ligne de l'avocat du procureur de la Couronne, dans un contexte où n'oubliez pas qu'il y a très peu de plaintes qui sont poursuivies par rapport aux plaintes qui sont déposées, parce qu'on est toujours à la recherche de cette victime idéale. Donc, et elle, on peut dire, elle peut pas dire qu'elle était la victime totalement idéale. Puis en plus de ça, l'avocat de la défense va mettre en preuve le fait que madame a déposé sa plainte, peut-être pour avoir la garde du fils. En tout cas, bref, ça va très bien. Et l'avocat de première instance va donner raison au procureur de la couronne, mais les avocats à la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario vont donner raison à l'avocat de la défense. Ils vont dire, écoutez, elle savait, elle était d'accord, là, elle change d'idée comme ça des mois plus tard, là, non, ça marche pas. Et en plus, ce qui est intéressant dans cette cause-là, c'est que l'avocat de la défense plaide le droit de madame de consentir pendant qu'elle est inconsciente. C'est une adulte majeure et vaccinée. Elle aime ça, les relations sadomasochistes. Qui sommes-nous pour prendre des décisions à sa place et retirer son droit de consentir sous prétexte qu'elle est inconsciente? Ne sommes-nous pas en train de la paterniser? Ne sommes-nous pas en train de retirer aux femmes leur droit d'avoir des sexualités alternatives et créatives? En gros, il l'a fait d'une manière, et vous pouvez, ce qui est le fun, si vous allez sur le site de la Cour suprême, vous pouvez avoir les mémoires des avocats. Et vous pouvez lire le mémoire de l'avocat de la défense, donc vous pouvez lire tout son argumentaire. Il l'a fait d'une façon qui est beaucoup plus étendue, polie, sophistiquée et nuancée, mais en gros, c'est ça qu'il dit. Que non seulement, il défend pas seulement le droit de son client de ne pas se faire condamner, mais il défend le droit de toutes les femmes à être étranglées érotiquement puis à profiter de la vie même quand elles sont inconscientes. Puis, je vous dis, c'est sûrement un discours qui est intéressant. Il y a 3 juges de la Cour suprême du Canada qui vont acheter cette défense-là, mais il y a quand même une majorité de 6 juges de la Cour suprême du Canada qui n'ont pas acheté ça. Et la juge McLaughlin, qui rédige pour la majorité, a clairement dit ce qu'était le consentement et en droit, là, vous discuterez entre vous à savoir si vraiment vous pouvez vivre avec ça, en droit, le consentement, c'est quelque chose qui est donné et qui... Dans la relation sexuelle entre 2 personnes capables de donner leur consentement, qui sont dans un état physique et psychologique qui leur permet de donner un consentement et qui, tout au long que dure la relation sexuelle, demeurent dans cet état-là, parce que la caractéristique du consentement librement consenti, c'est qu'il peut être retiré à tout moment. Donc, non seulement les gens doivent être consentants au moment où la relation s'amorce, mais ils doivent être consentants pendant toute la relation. Et s'il arrive un moment dans la relation sexuelle, ou pour une raison ou pour une autre, un des deux partenaires ne peut plus ou n'est plus en état de donner son consentement, il n'y a plus de consentement. Et donc, c'est pas seulement de dire non, c'est d'être dans un état de pouvoir choisir si on veut dire non ou si on veut dire oui. Et l'état du droit à l'heure actuelle, c'est ça. Est-ce que socialement, on est rendu là? Ça, c'est une autre question. Oui. Et là, ben moi, c'est sur ce beau punch que je voulais finir et passer la parole à Émilie qui va vous expliquer un petit peu plus comment ça se passe au niveau de la plainte et tout ça, puis on pourra commencer une période aussi de discussion.
Mais est-ce que le droit dit spécifiquement que toute consommation de toute substance ne permet pas cet état de consentement?
Non.
C'est subjectif à être donné par le policier de la
cour. Oui, puis la victime.
Oui, Martin?
Le nom de cette cause-là?
C'est R contre AJ. D'accord. 2011, Cour suprême du Canada.
Oui?
La subjectivité par rapport à la consommation, est-ce que ça fait que la perception de la victime qui va primer sur autre chose? Ou tu sais, la victime dit, ben, je suis sûre que ça me tentait, ben, c'est moi, j'étais trop saoule si on avait jamais tenté avant. C'est-tu vraiment la perception de la victime qui va être prise en compte? Ou c'est la perception que les policiers s'en font du discours de victime ou que les.
Mais, ben, je comprends ta question. Écoute, dans tous les cas de figure, là, on se pose la question parce qu'il y a eu une plainte. S'il n'y a pas de plainte, il n'y en a pas de problème. Donc, quelqu'un qui consent et qui continue de consentir et qui continue d'être d'accord, pourquoi est-ce qu'il irait porter plainte? Tu sais, cessons de prétendre que les plaintes en agression sexuelle sont déposées pour des tas de choses qui n'ont pas rapport avec le fait qu'il est arrivé une agression sexuelle. Cette femme-là, la raison pour laquelle ça s'est rendu devant les tribunaux puis qu'on s'est posé la question par rapport à son consentement, c'est qu'elle a elle-même exprimé l'idée que peut-être que finalement, elle n'était pas contente de se réveiller avec un dildo dans le derrière. C'est ça aussi la réalité. Et c'est bien de vous poser la question parce que j'ai un de mes amis qui a des pratiques alternatives et créatives sexuellement et qui était choqué par la décision parce qu'il disait « Mais mon Dieu, tu sais, si moi je me saoule la gueule, puis je prends des petites substances, puis je dis à mon chum, lâche-toi lousse, puis gnang, gnang. » Il dit « Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont sortir, la police va venir. » J'ai dit « Regarde, si tu portes pas plainte, il est où le problème? Vous faites ce que vous voulez dans votre chambre à coucher, là. Vous aimez sadomaso, vous avez un petit safe word, Tweety Bird. Vous faites ce que vous voulez. Vous, tu sais, comme vous voulez, ce que vous voulez. Si vous êtes consentant, vous ne porterez pas plainte. Peut-être que, oui, il va arriver à l'occasion que quelqu'un mal intentionné porte plainte pour des mauvaises raisons. Peut-être que cette personne-là va être tellement crédible qu'elle va réussir à passer à travers tous les filtres. Et bonne chance pour arriver jusqu'à la condamnation. Ça, c'est vraiment le prix d'Oscar, parce qu'il faut vraiment être un super acteur pour tenir le coup comme ça. Mais c'est le prix à payer pour éviter que des tas de victimes marchent sur la rue en risquant de croiser leur agresseur, parce que leur agresseur ne sera jamais puni. La justice n'est jamais parfaite. Il y a des gens innocents qui sont condamnés, ça arrive. Il y a des personnes qui déposent des accusations dans un paquet de domaines pour les mauvaises raisons, ça arrive. Ce qu'il faut qu'on établisse comme société, c'est avec quel niveau de risque on est prêt à vivre. Jusqu'à récemment, par rapport à l'agression sexuelle, on avait un niveau de risque zéro en faveur de l'agresseur. C'est-à-dire qu'on avait tellement peur d'enfermer un pauvre gars innocent qu'on était prêt à nier les droits de toutes les victimes, ou à peu près. Là, on est rendu dans un cas de figure où on se préoccupe davantage de la victime, où on veut que les victimes qui ont été agressées sexuellement obtiennent justice. Ça veut dire qu'on peut courir le risque qu'il y en ait une dans le tas qui ait menti. Mais je pense que c'est ça, socialement, là, il faut qu'on se demande, est-ce qu'on veut retourner à dire on va protéger les agresseurs potentiels, ce qu'on faisait avant, ou est-ce qu'on s'intéresse davantage aujourd'hui aux victimes? Puis, comme je vous dis, tant qu'il n'y a pas de plainte, faites ce que vous voulez, empêchez-vous pas de vivre.
Parce qu'on a parlé un peu aussi de l'évolution là, de la capacité de porter plainte, mais on n'a pas parlé du fait que avant même d'être obligé d'avoir un témoin femme comptait pas comme un témoin.
Oui,
aussi,
au début, oui.
Il y a toute une belle évolution là, par rapport à la gestion puis à la considération des victimes qui portent plainte. C'est sûr que petit à petit, on a commencé à construire un système qui répond un peu mieux davantage aux besoins des victimes. T'avais une question? Oui.
Je
vais faire
un peu plus sur un exemple que vous donnez sur le cas de votre amie puis du jugement de la cour qu'il y a eu.
s'entendre sur le fait que, ouais, je fais pas de plainte, même si je tombe inconscient, parce que ça me tente qu'on essaye ça, parce que c'est wild, c'est cool. Mais là, comme 2-3 mois plus tard, il se rend compte que le sentiment qui lui reste, le résidu du sentiment qui lui reste de cet événement-là, qui est négatif, qui est en train de ronger de l'intérieur, blablabla, et on parle avec des amis. Ses amis vont, mais dans le fond, tu as vécu une agression, tu sais, les symptômes que tu ressens, finalement, c'est comme si tu avais vécu une agression, tu devrais porter plainte. Et là, comment que, considérant la définition de la cour où il doit être conscient pendant l'acte, on peut considérer le consentement préalable dans lequel il dit, ben ça ne me dérange pas si je tombe inconscient, tu continues. Un flou ici.
On peut-tu attendre que ça soit vraiment
sans
cours suprême, ce
cours d'école-là? C'est sûr que ça répond à quelque chose de sensible parce que la relation sexuelle, c'est une relation intime qu'on a avec une autre personne, puis c'est une relation de confiance. Puis quand on instaure une relation de confiance, puis on dit à quelqu'un, je te permets de faire certaines choses, ça va dans les deux sens. Cette personne-là va croire notre parole autant que nous, on va croire que cette personne-là ne fera pas des choses qui pourraient être. Nous faire du mal, nous porter atteinte, c'est dans les deux sens. Bon, si la personne se sent mal après, c'est peut-être parce que justement, quelque part, la relation de confiance a été brisée, puis que finalement, la personne, elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Ceci étant dit, c'est sûr que le code criminel, là, ça ne. Comment je pourrais dire? Bon, premièrement, c'est faire la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Donc, il y a tout un système de fil dans le code criminel où on essaie d'éviter. D'envoyer en prison des gens qui n'ont pas commis de crime dans le sens où ils n'avaient pas l'intention de mal agir. Parce que c'est il y a un mens rea. Tout le processus de filtrage fait en sorte que les cas ambigus ont le plus de chances de se régler avant, beaucoup plus tôt dans le système. Et que, d'un autre côté, on ne peut pas demander au droit criminel de réguler les rapports sociaux entre individus. Ce n'est pas sa fonction. Donc, ça ne répond pas à votre question,
oui,
mais.
En même temps, oui. S'il y avait déjà une façon d'agir de la part du système judiciaire par rapport à la système,
Il y a des filtres importants, là. Mais le système judiciaire est le reflet de la société dans laquelle on se trouve. Donc, son efficacité à bien répondre à une situation reflète le positionnement clair de la société par rapport à cette question.
Il y a beaucoup de questions. On voulait juste. Peut-être de manière très courte. Oui.
Ouais, mais vous ne parlez pas de harcèlement. Alors, vous pensez que si ce n'est pas au travail, c'est mieux de le résoudre au niveau social?
Non, absolument pas. J'ai fait le choix politique de ne pas parler du harcèlement parce que c'est un peu la décision qu'on avait prise de parler uniquement des cas criminels. Le harcèlement au travail, il y a tout un autre pan de violence sexuelle qui ne se règle pas par le droit criminel, mais qui se règle par d'autres règles de droit. Par exemple, la question du harcèlement se règle par des lois qui ne sont pas nécessairement des lois criminelles, les règles ne sont pas les mêmes, et ce qu'on cherche à réparer non plus n'est pas la même chose. Ça, je pourrais faire un autre.
On fera un autre atelier.
Oui,
sur le harcèlement, oui. Je vais demander une clarification. Ça, c'est vraiment un peu bizarre quand vous avez dit, je sais que c'est dans un cadre juridique, mais tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Parce que ça m'a comme. Mais c'est dans tout. Je voulais savoir comme qu'est-ce que vous voulez dire en
parlant. Moi, je parle strictement sur le plan du droit. Parce que comme je le disais à votre collègue, le droit, là, c'est pas la panacée pour régler les problèmes, tous les problèmes. Et c'est pas parce que le droit n'est pas intervenu dans une situation que ça veut dire que la situation n'est pas mauvaise. C'est pas parce que le droit n'est pas intervenu par rapport à une agression que l'agression n'a pas eu lieu. La condamnation, c'est pas le problème apparaît pas le jour où on dépose la plainte devant les tribunaux. Le droit, ce n'est que le... C'est qu'un des modes de gestion des problèmes sociaux qu'on peut avoir. Donc, c'est à ce niveau-là. Je suis contente que vous fassiez la précision parce que quand je dis ça, c'est sur le plan strictement du droit.
Parce que c'est de ça qu'on veut essayer de passer en deuxième étape, mais ça m'apparaît important de dire que le commentaire a été fait pour dire « Moi, je veux dire, ça va m'arriver de consommer de l'alcool et d'avoir des relations consensuelles. » Est-ce que cette prise d'alcool-là, elle nie nécessairement mon consentement? Si moi, en tant que femme, je ne considère pas que c'était une agression, bien, j'ai le droit de définir moi-même mes limites aussi. Alors, c'est ça qu'on dit, le système judiciaire, le système criminel surtout, ne peut pas définir au cas par cas chaque réalité qui va constituer. C'est pour ça qu'on dit que c'est une considération par rapport aux victimes, de dire, ben moi, dans ces conditions-là, j'ai été une victime. Puis, il y a quand même, la Cour suprême est de plus en plus claire pour définir ces barèmes-là, mais il existe toujours à l'intérieur de ça des pratiques consensuelles, des pratiques sexuelles consensuelles qui peuvent exister à l'extérieur de la normativité criminelle. Mais tant que le consensus est maintenu, on ne parlerait pas d'un problème. J'ai vu plein de mains, mais je propose qu'on continue, puis peut-être que je vais répondre, puis sinon vous voulez me demander.
Ben, la discussion qu'on voulait avoir en deuxième partie, qui va être très courte, puis peut-être qu'on pourra avoir des espaces de discussion pendant le lunch, parce que je pense que de plus en plus, c'est une discussion à laquelle on a beaucoup été confrontés, nous, en tant que femmes, qui ont été proches de la gestion de différents cas dans les derniers mois, et qui était pour nous une réalité particulièrement, je dirais, ironique. Rachel a beaucoup parlé du fait qu'il y a à peu près 8 à 10 % des victimes qui choisissent de porter le fardeau. Moi, je pense qu'entre autres, c'est porter le fardeau de porter plainte à la police. Alors, on parle quand même d'une grande majorité des agressions sexuelles qui ne sont pas dénoncées à la police. Et ça nous apparaissait pertinent de discuter de l'importance d'ouvrir d'autres espaces de discussion et même de dénonciation qui ne sont pas nécessairement l'accès au système judiciaire. Pourquoi est-ce qu'on veut en parler? Vous comprendrez que dans nos milieux, peut-être pas dans tous les milieux des gens ici qui sont présents et présentes, mais dans plusieurs de nos milieux, on a une approche qui est particulièrement, j'allais dire anti-flic, mais je cherchais le mot pour être fine, puis je ne l'ai pas trouvé. On est suspecte des agissements, méfiante, quoi.
Critique.
On est critique et méfiant et méfiante des gestes de la police, des considérations des services de police. Et nous, on a été confrontés à plusieurs cas où on trouvait particulièrement ironique d'être confrontés à des gens qui nous disaient « Mais est-ce qu'ils ont porté plainte à la police? » Est-ce que la police est devenue notre nouveau barème de réalité et de croyance? Et c'est sûr que ça nous a beaucoup choqués. Alors, c'est sûr qu'on voulait revenir sur cet enjeu-là pour nommer certaines choses. Pour nous, c'est important, et je pense qu'on va en reparler quand on va avoir l'atelier, le troisième atelier plus tard, sur l'accompagnement des victimes. On va beaucoup parler d'autodétermination des victimes et des survivants, parce que pour nous, c'est central à la gestion des cas d'agression sexuelle. Il faut choisir d'accepter que les victimes veulent définir comme leur processus de dénonciation et leur processus de gestion des événements, si on veut. Et il faut aussi comprendre que porter plainte à la police, c'est pas le fun. Il y a une revictimisation qui s'opère à travers les dénonciations. Il y a une revictimisation qui s'opère à travers la dénonciation à la police. Il y a une revictimisation qui s'opère à travers la gestion judiciaire. Et là, je réalise que j'entre un peu peut-être en contradiction, mais moi, je veux le nommer, le fait qu'on a beaucoup parlé d'une évolution assez importante des décisions. On parle de jurisprudence là, par rapport aux décisions en droit. On a beaucoup parlé d'une Cour suprême au Canada qui devient de plus en plus éveillée à la réalité des victimes, qui prend de plus en plus en considération le besoin des victimes, je pense. Je dirais de Ewanchuk à aujourd'hui, de Ewanchuk à Agi, on pourrait faire une belle analyse historique de l'évolution de la Cour suprême. Moi, je pense que la Cour suprême va même plus loin que la société en est prête aujourd'hui. Quand tu lis un arrêt comme Ewanchuk, qui est quoi, qui est 91-92, de manière sociale, on n'avait pas ces discussions-là quand la Cour suprême a décidé de définir que le fait que le consentement tacite de « je pensais, mais elle a dit non, mais je pensais que c'était une invitation pour être plus hot », n'était pas un consentement. Mais parallèlement à ça, même si on a un système judiciaire qui, en effet, est de plus en plus à l'écoute des victimes, il y a une réalité où porter plainte implique beaucoup de conséquences qu'une femme peut choisir ou non de vouloir vivre. Et pour nous, dans des milieux où on est plusieurs, je pense, à se définir anarchiste ou avec des tendances anarchisantes, ça nous apparaissait comme quelque chose qu'on voulait absolument ramener sur le plancher pour dire pourquoi est-ce qu'on est si capable ou si facilement capable d'être critique par rapport à la police quand on parle de brutalité policière dans les manifs, quand on parle de tout ce qui entoure un peu la gestion de nos êtres en tant que sujets et acteurs politiques. Mais une fois qu'on parle de nous, en tant que femme, on se fait questionner sur « mais si c'est vraiment vrai, pourquoi tu ne vas pas à la police? » Puis c'est quelque chose qu'on a quand même entendu plusieurs fois. Et ça a été particulièrement troublant d'être confronté à des camarades, hommes et femmes, qui, quand ils ont su, quand ils et elles ont su qu'il y avait eu des plaintes qui avaient en effet été faites à la police, « Ah, oh, OK, c'est parce que c'est vrai. » On se dit « Attends, là, pourquoi est-ce que comme milieu, on est capable d'être si critique d'un côté, et en même temps, pourquoi est-ce qu'on valorise le recours à la police comme étant gage de vérité? » Alors, c'est sûr que les enjeux principaux dont on voulait parler, c'est toute l'importance de considérer le filtrage. Rachel en a un petit peu parlé. Il faut comprendre que quand on porte plainte à la police, le processus même de la police, et là je vais répondre à la question de Geneviève, quand on choisit d'aller porter plainte à la police, on fait face en premier lieu, soit à un policier ou à un enquêteur ou une enquêteuse. Il y a certaines sections spécialisées à Montréal, pas toujours dans d'autres centres métropolitains ou dans d'autres régions, ou dans certains centres métropolitains, mais pas partout, d'agressions sexuelles ou d'agressions à caractère sexuel ou de crimes à caractère sexuel. Il y a moyen, parfois, mais pas tout le temps, d'avoir accès à des enquêteurs qui ont un petit peu plus de formation par rapport à la gestion de victimes de crimes à caractère sexuel, mais pas tout le temps, parce que des fois, on tombe sur le tweet qui était là. Et par rapport au processus dont on voulait parler un peu, c'est que une fois que la plainte est portée, il devrait toujours, mais malheureusement il n'y a pas toujours, l'ouverture d'une enquête. Ça, c'est-à-dire que subjectivement le policier choisit ou l'enquêteur choisit d'ouvrir une enquête ou non, parce que la version qu'il a entendue, il y a une certaine crédibilité qu'il va attacher à la victime, va donc choisir de faire enquête. Habituellement, de manière générale, le faire enquête va se résumer à avoir une rencontre avec la personne accusée, ou du moins peu. Si la victime va nommer des témoins, va nommer des gens de personnes d'intérêt, la police peut aussi faire une démarche par rapport à ces personnes-là pour aller enquêter. Et c'est cet enquêteur-là qui, conjointement avec différents acteurs là, au sein des unités, vont choisir de déposer un dossier au DPCP, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est un peu le chef des procureurs de la couronne au Québec. Le dossier va être transféré au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et c'est ce directeur-là qui va assigner un procureur de la couronne au dossier. Et là, le procureur de la couronne ou la procureure de la couronne assignée pourra continuer à faire enquête avec les éléments d'enquête qui ont déjà été fournis par la police. Ce qu'on réalise toutefois, et là j'ai une camarade avocate qui laisse sa main, puis je vais donner la parole après. Oui. C'est ça. Et une fois que le dossier va avoir été transféré au DPCP, au procureur de la couronne, c'est ce procureur-là qui va choisir de porter plainte ou non. Alors, on voit vraiment qu'il y a des filtres qui passent. Il y a dénonciation à policier, à enquêteur, à DPCP, à procureur. Et c'est ce procureur-là, procureur de la couronne, qui va choisir de porter des accusations ou non. Et qui va définir la nature de ces accusations-là. Alors, c'est sûr qu'on peut dénoncer une chose et un procureur peut dire « Regarde, moi, je ne pense pas être capable d'aller chercher ça comme condamnation et je vais donc accuser de autre chose. » Par exemple, quand on parle des niveaux d'agression sexuelle, est-ce que c'est une agression sexuelle avec des marques, sans marques, avec blessures, sans blessures, avec armes, sans armes?
La tendance générale chez les PG, c'est de sous-évaluer la gravité de l'agression sexuelle pour être certain d'avoir une condamnation dans un contexte où c'est difficile. Donc, les femmes se sentent... Bon, c'est parce que c'est beaucoup des femmes, là. Les personnes victimes se sentent vraiment dénigrées dans le système parce que ce qu'elles voient de la justice, c'est qu'on va aller chercher des accusations pour un crime qui est beaucoup moins grave que le crime
qu'elles dénoncent réellement.
Donc ça, c'est un des nombreux problèmes soulevés par tout ça.
Et ça nous apparaissait du moins important de mettre un peu cette réalité-là en lumière. Peut-être pour mieux comprendre aussi les femmes qui font des choix, qui sont habituellement des choix très conscients de ne pas porter plainte à la police. Entre autres parce que, Rachel le disait, depuis 1985, le passé sexuel des victimes ne peut plus être considéré en cours. En toi puis moi, là, c'est beau sur papier, c'est pas vrai dans la réalité. Peut-être que Julie, tu pourras en parler parce que de l'accompagnement par rapport à la gestion là, dans la réalité. Mais malheureusement, on est confronté à un système parce que nos policiers ne sont pas exclus des dynamiques de socialisation dont, de manière générale, on est soumis, sont dans un milieu qui est de facto, de toute façon, particulièrement socialisé sur une base genrée. Malheureusement, on est encore consciente que dans la gestion, malheureusement, tant par les policiers que par les procureurs de la Couronne, il y a un questionnement de la crédibilité qui se fait par rapport au passé sexuel. Puis tout ce qu'on a nommé ce matin par rapport aux mythes, malheureusement, on les entend encore dans les postes de police. Malheureusement, on les entend encore en cours. Malheureusement, on les entend encore dans les bureaux des procureurs généraux, t'sais. Alors, c'est sûr que nous, la réflexion très courte avec le temps qu'on voulait amener, et peut-être qu'on pourra relancer l'enjeu pour, pendant le dîner, être capable d'en débattre de manière plus succincte, mais en plus petit groupe, c'est vraiment la réflexion à avoir, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit prendre des fois un pas de recul, dire « Attends, est-ce que je suis en train de faire une différenciation basée sur quelque chose que je dénonce de toute façon? » Si je suis prête à accepter que le recours à la police n'est souvent ou pas la solution. Puis, bon, en tant que future avocate, je suis comme mal placée pour dire qu'il faut jamais aller à la police parce que sinon, je ne travaillerai jamais. Mais,
j'ai aussi une fonction pro-police.
Dans oui, ce c'est ça. Là. Mais il y a un débat à avoir. Je ne pense pas que la question, c'est de dire il ne faut pas aller à la police. Au contraire. Moi, je pense qu'il faut choisir d'accompagner les femmes dans leur désir d'autodétermination et dire « moi, je veux aller à la police si ça répond à un besoin pour elles, et ça, on va en reparler cet après-midi, si ça répond à un besoin pour elles par rapport à leur cheminement, si ça répond à une démarche qu'elles ont envie ou besoin de faire, je pense qu'il faut absolument, comme milieu de mobilisation qui est souvent antifique, accompagner les femmes et les victimes là-dedans. » Mais à l'extérieur de ça, je ferais la réflexion contraire, c'est de dire aussi, il faut refuser de faire dépendre la crédibilité qu'on accorde aux victimes sur le fait qu'elles auront choisi ou non de porter plainte à la police. Est-ce que ça répondait à la question de manière générale? Peut-être qu'on peut prendre quelques questions et après ça, on dînerait. Julie, ouais.
Je veux juste faire une précision pour la En fait, leur job, c'est de prendre la plainte. Ils n'ont pas à décider si ça va être retenu ou pas. Alors, quand tu accompagnes une personne et tu vas porter plainte, il faut garder en tête que sa job, c'est pas lui qui décide, c'est le procureur qui décide. C'est l'enquêteur qui bon, c'est après. Donc, si tu décides que tu veux porter plainte, ou que la personne qui est avec toi veut porter plainte, mais le policier ne veut pas, tu dis moi, je veux porter plainte, il est où ton supérieur? On peut jouer cette game-là aussi. Il faut garder en tête que c'est pas lui, en avant de toi au poste de police, qui décide. Toi, tu portes plainte. C'est pas lui qui décide s'il va avoir des accusations de portée parce qu'on ne sait pas c'est qui le gars. J'en ai entendu des niaiseries. C'est pour ça que souvent, les femmes, on essaie d'accompagner les personnes qui veulent aller porter plainte parce qu'elles se remettent en question, mais qu'on a le droit de dire tu prends ma plainte. C'est sa job. C'est ce qu'il faut garder en tête. C'est important de le dire.
Et j'irais même plus loin, encore une fois, sur des cas d'agression sexuelle, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des mécanismes de plainte privée qui existent auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est une fois que le fameux DPCP dont je vous parlais, qui est comme le king des procureurs, une fois que ce king-là des procureurs aura refusé, par exemple, ma plainte pour agression sexuelle, il existe des mécanismes alternatifs de plainte qui sont, qu'on appelle en droit criminel ou en pénal, la plainte privée, où moi je peux décider de saisir le tribunal. Habituellement, ce qui va arriver, c'est que je vais faire une requête en ce sens-là. Je vais devoir me présenter devant un juge et expliquer à un juge pourquoi ma plainte devrait être reçue. Et après ça, ça vous intéressera moins, là, mais il y a toute une dimension qui peut se faire avec un avocat privé qui peut être reprise par un procureur de la Couronne ou pas. Mais c'est important, comme Julie le mentionnait, je pense, de distinguer ces moments-là et ces espaces-là et d'accompagner les femmes dans les démarches qu'elles veulent faire et de respecter tout à la fois les démarches qu'elles refuseront de faire.
C'était exactement ça, ma
question. Oui.
Moi, je me demandais quel était le délai entre je vais voir le policier, la policière et finalement ma plainte se rend. Je ne sais pas, mais ça a l'air, disons à quel point je
le reçois. Il n'y a pas
les plaintes, mais ça dépend de la gravité de la plainte. Moi, ce qu'on constate par rapport aux plaintes pour des agressions physiques légères, peu importe le type d'agression, ils essaient de faire un effort quand c'est des crimes à caractère sexuel pour qu'ils passent plus vite, surtout si la victime est jeune. Parce qu'une des grandes craintes des enquêteurs, quand la victime est plus jeune, c'est qu'elle change d'avis et qu'elle devienne moins collaboratrice, elle pousse beaucoup. Quand la victime est mineure, ça va très vite. Quand la victime est majeure, c'est un cas de date rape où il n'y a, pas eu de violence, ça peut prendre 6 mois, 8 mois. Parce que tout le temps que ça passe à travers les différentes étapes, ça peut faire en sorte que tu as plusieurs mois en fait pour réfléchir à tout ça et décider si tu as toujours envie de la poursuivre. C'est ça. Mais par contre, dites-vous que plus le crime est grave et sérieux, plus c'est rapide, plus la victime est jeune, plus c'est rapide.
Mais c'est malheureusement pas comme dans Law and Order que le lendemain ils vont arrêter.
Non,
le
gars, c'est ça.
Moi j'ai arrêté d'écouter Law and Order parce que j'étais comme c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Mais la malheureusement, c'est une bonne discussion à continuer à avoir sur les durées, puis le temps, puis le stress aussi de toute cette gestion temporelle.
Oui, je voulais savoir, si tout à l'heure on va parler de ce qui pousse les victimes à justement décider de faire ou non la peine.
Je vais regarder les femmes qui donnent l'atelier tantôt.
Mais en fait, plus par rapport aux différences de tout ce qui s'implique comme choix.
Mais je vais avoir l'action, mais dans l'autre, ça peut être de ça, mais c'est pas ça, pour des changements.
Mais définitivement, je pense qu'on peut le ramener.
Oui, j'ai entendu dire, c'est pour ça que ce soit assez important que dans certains états aux États-Unis, il y a une limite de temps entre le moment où le viol s'est posé et le moment où une personne peut être déposée. Je voulais savoir si ça s'applique au premier aussi.
Je ne sais pas si ça existe encore aux États-Unis, des délais de prescription très courts. Au Québec, on a. Bon, au Canada, au Québec, dans les autres provinces, il y a des délais de prescription généraux par rapport à tout type de crime. Hein. Je me semble que c'est 20 ans, le délai, ou 30 ans, c'est une longue période. Et il y a des crimes imprescriptibles dorénavant, dont les crimes d'inceste et d'agression sexuelle contre les mineurs, qui sont devenus maintenant ce qu'on appelle des crimes imprescriptibles, ce qui fait que 40 ans après le fait, c'est encore possible pour les victimes de porter plainte. Donc, ça a déjà été vrai, parce que je vous en ai déjà parlé, là, c'était ce qu'on appelle le principe d'atteinte immédiate, mais depuis 1985, dans tous les cas de figure, le crime d'agression sexuelle, vous avez la même période de temps que pour tous les autres crimes pour décider de porter plainte, ce qui est une période de temps relativement longue. Et dans des cas spécifiques, c'est même toute votre vie.
C'est vrai.
Je sens
que c'est vrai.
Mais c'est entre autres pourquoi on entend, par exemple, parler de certains cas d'agression sexuelle dans les collèges ou dans les orphelinats ou dans.
Mais la question du Sacré-Cœur, qu'on entend beaucoup, là, les prêtres de Saint-Viateur qui sont plus dans les médias.
Parce que le code a décidé qu'il n'y avait pas de limite de temps pour qu'une personne qui a été agressée en tant qu'enfant puisse porter plainte. Dans une agression sexuelle entre adultes, j'ai comme le goût de dire que c'est 20 ans, mais il faudrait que je confirme parce qu'il y a différentes. Il me semble que c'est 20 ans. Oui, pardon.
Ben, moi, j'ai deux questions. La première, c'est si par exemple, je me fais agresser par mon employeur, est-ce qu'il y a des clauses qui font que si moi je vais porter ma plainte, c'est sûr que je veux quand même continuer à travailler. Je ne veux pas nécessairement revoir cette personne, mais c'est sûr que je vais la retrouver. Est-ce que c'est, dans le sens, est-ce que c'est, ça va durer aussi longtemps parce que c'est quand même sérieux de recôtoyer ton agresseur. Par exemple, moi, je ne voudrais plus retourner à ma job, mais disons que si je ne continue pas à travailler, je ne veux plus payer ci, je ne veux plus payer ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce que vous
voulez?
Est-ce qu'il y a une clause qui dit qu'il n'a pas le droit de menacer? Quand, par exemple, il reçoit la. Il sait que je l'ai accusé, il n'a pas le droit de me. Il y a une clause qui dit qu'il n'a pas le droit de menacer qui n'a plus de job parce que tu m'as.
Ben, on
n'a
jamais le droit de menacer les gens. De prime abord. Alors, c'est sûr que menacer, de retirer les accusations, par exemple, pour garder un emploi, ça va toujours être illégal. Tout comme un proprio qui dirait si tu ne retires pas ta plainte, je t'exclus de ton logement. Un prof qui dit si tu ne retires pas ta plainte, je vais couler ton cours. La menace en tant que telle va toujours rester criminelle, si on veut. À l'extérieur de ça, j'ai comme envie de renvoyer la question à Josiane, qui est une camarade de féministe avocate en droit du travail. Alors, je pense que, ouais.
Mais je peux pas répondre pour le volet, parce que je suis pas criminaliste. Mais peut-être que Michel pourrait répondre plus pour le volet, ou Julie pour le volet pénal, mais ça, c'est deux tracks différentes. C'est-à-dire que votre recours pour l'agression va être sur la track criminelle, puis votre recours en droit du travail, vous en avez un aussi, parce que dans la. Ben, ça dépend si vous êtes syndiqué ou pas, je n'ai pas encore ma prenons pour acquis que vous n'êtes pas syndiqué, vous avez un recours en vertu de la loi sur les normes du travail, et c'est considéré comme du harcèlement de travail. Vous avez une plainte, c'est l'agression, c'est un geste grave qui est suffisant pour démontrer que vous avez subi du harcèlement. Donc, vous pouvez déposer une plainte. Mais pour ce qui est de l'interdit de contact, moi, honnêtement, je n'ai jamais eu de cas où c'était. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que le patron va vous congédier, puis vous avez un autre recours pour. Parce que vous avez exercé une plainte, vous avez déposé une plainte, il n'y a pas le droit de vous congédier parce que vous avez déposé une plainte. C'est tout ça, c'est très complexe, là, mais le criminel va, évidemment, si vous faites une plainte au criminel, vous déposez une plainte, que le procureur porte des accusations, puis le gars est condamné, mais c'est clair que ça va vous aider au niveau de votre recours en droit du travail. Malheureusement, ça va plus vite en droit criminel qu'en droit du travail, ça donne un peu des délais. Mais pour ce qui est de l'interdit de contact, là, je vous avoue que moi-même, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas le droit de vous congédier, en même temps, il y a un flou, là. Si vous étiez syndiqué, on aurait un tour de débat sur le fait que vous auriez. Il y aurait un autre recours possible, mais là, si vous êtes pas syndiqué, très honnêtement, j'ai vraiment un effort à répondre parce qu'il n'y a pas le droit de vous congédier, mais en même temps, si vous ne pouvez plus vous présenter au travail, c'est.
Dans les faits, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles au travail vont tomber en congé de maladie. C'est un peu bête, là, mais c'est un peu comme ça qu'on gère le problème. C'est sûr qu'il y a une sensibilité plus grande, puis on avait déjà abordé ça, il y a une sensibilité plus grande des enquêteurs, policiers, puis maintenant, il y en a qui sont formés, puis il y a une ligne 1-800 auquel on peut avoir accès, si vous allez sur les sites web du réseau des CALAC, là, qui est le centre d'aide et de soutien des femmes victimes des femmes et des personnes victimes d'agressions sexuelles. Donc, ce qu'on recommande aux enquêteurs criminels maintenant dans les types de crimes contre la personne et particulièrement les agressions sexuelles, c'est de tout faire pour aller rapidement dans un contexte où c'est difficile de séparer la victime de la personne qui serait son agresseur potentiel. Et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place parce que ça arrive en milieu de travail. Parce que l'agresseur, c'est un membre de la famille, c'est le patron, c'est mon oncle, c'est le propriétaire. C'est souvent quelqu'un de proche. Donc, ce problème-là se pose régulièrement. C'est le camarade de classe avec qui on étudie dans le droit des biens. Donc, peut-être pas, en tout cas, ça dépend de ce qu'on aime comme pas. Mais donc, il y a une sensibilité, puis on essaie, dans la mesure du possible, de surtout quand on sait que la victime côtoie la personne qu'elle a accusée d'agression, d'aller rapidement, de façon diligente, pour veiller à ce que, justement, il n'y ait pas ce problème-là. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les victimes, premièrement, elles sont victimes, elles ont des problèmes physiques reliées à l'agression, des chocs psychologiques et tout ça. Et souvent, elles vont passer un bon moment en congé de maladie.
Puis, inévitablement, on est aussi confronté à une certaine présomption d'innocence où si une victime considère qu'elle est capable de continuer de travailler, si elle ne va pas en congé de maladie, par exemple, moi, je ne connais pas de recours là, pour avoir. Moi, j'ai jamais vu de recours où une femme a été capable de. En commission.
De toute façon, il règle le problème. Oui, souvent l'employeur congédie.
Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir un congédiement. Puis, comme il va avoir un congédiement sans justification, la femme va être capable d'obtenir un montant d'argent qui va représenter une capacité économique où elle n'aura pas besoin de travailler. La majorité des cas, moi, je te dis à ça qu'on fait référence.
Moi, j'ai un exemple en fait, qu'on dit de il est allé en congé maladie, effectivement, mais vu les délais, ça s'étire. Puis il faut garder en tête que dès qu'il y a une plainte qui est déposée, la personne, elle est arrêtée, puis il y a des conditions qui sont mises jusqu'à temps qu'elle parte avec son procès ait lieu. Donc cet homme-là a un interdit de contact avec elle, ne peut pas se trouver en même temps qu'elle sur son lieu de travail, mais c'est son collègue de travail. Donc l'employeur participe à aménager parce qu'elle retourne au travail. L'horaire, lui, n'aura pas le droit d'être là quand elle est venue. c'est sa responsabilité à lui, il n'a pas le droit d'être présent. Donc c'est possible. En tout cas, moi, j'ai vu une situation où ça.
En même temps, encore faut-il avoir accès à une assurance salaire. C'est pour ça que je fais de la distinction entre syndiqué et pas syndiqué, parce que quand on est syndiqué, on a cette possibilité-là de tomber sur moi. C'est mon premier réflexe, c'est que tu pars en invalidité et on va gérer le test. Mais si t'es pas syndiqué, t'as pas l'assurance salaire.
J'ai l'impression que agression sexuelle en milieu de travail, ça nous amènerait à un tout autre atelier particulièrement intéressant. Je lance des pistes, camarades d'avocates féministes, il y a des choses qui s'organisent. Mais malheureusement, on va revenir après le dîner. Et là, on va dîner. Mais on va revenir après avec eux.